Bon après-midi à tout le monde. J'espère que vous avez bien mangé, que vous êtes satisfait du point de vue de nourriture physique et que vous n'allez pas vous endormir. Parce qu'il y a un grand danger 15 heures l'après-midi après avoir mangé, donc c'est le sommeil qui commence à faire des exigences. Et donc je vous encourage à bien résister. Et si vous voyez votre voisin qu'il est en train de s'endormir, il faut l'encourager un peu aussi avec un petit coup de, n'est-ce pas, pour qu'il puisse se réveiller. Bon, nous parlons des puissances des ténèbres et la souffrance humaine. C'est ça le thème pour cet après-midi. Il faut dire que la partie de cet après-midi et demain matin, c'est en quelque sorte un seul élément qu'on a divisé parce que, à cause de temps. Mais le point, la session 4 et la session 5 sont en quelque sorte unis. Donc demain, nous continuons avec ce que nous commençons aujourd'hui. C'est ça le point que j'ai dit. Et nous allons discuter donc effectivement les esprits, la sorcellerie, les malédictions. Ce sont les thèmes de cet après-midi et demain matin. Et donc nous passons à des choses qui sont très importantes dans le contexte de la guerre spirituelle. Et nous avons besoin de l'éclaircissement de la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit concernant ces choses? Il faut dire tout au commencement que pour étudier ces choses, on ne peut pas seulement chercher dans la Bible pour des références à sorcellerie, à esprit et ainsi de suite. On doit étudier ceci dans le contexte de la Bible tout entière. Quel est le grand message de la Bible? Quel est son grand narratif? Qu'est-ce que la Bible dit dans l'ensemble? Et puis, dans ce contexte large et profond, on peut considérer ce que la Bible dit concernant les esprits, la sorcellerie, les malédictions et ainsi de suite. Donc, je vais commencer avec le témoignage de la Bible. Et j'ai en quelque sorte identifié certaines choses qui me semble très important quand nous abordons cette question. Des choses, on peut dire, préliminaires, mais quand même néanmoins fondamentales pour que nous puissions bien comprendre ce que la Bible nous dit concernant les choses que nous avons discutées. Et d'abord, il est question de dire, maintenant, nous avons déjà parlé de ceci, donc vous pouvez m'accuser de répéter si ou quoi, mais c'est vrai que je me répète parce que c'est si fondamental. Tout ce que nous disons ici concernant le monde surnaturel et les esprits de méchanceté ainsi de suite doivent être vus de la perspective de Dieu, surtout. Notre conception de Dieu est d'une importance absolue pour notre foi chrétienne. En quelque sorte, en tant que chrétien, il n'y a pas de chose plus importante que de connaître notre Dieu et sa grandeur et sa bonté et sa grâce et sa miséricorde. Mais la conception que nous avons dans nos têtes concernant Dieu va avoir un impact sur toutes les autres dimensions de la vie chrétienne que nous cherchons à vivre. Et donc d'abord, encore une chose, Dieu a créé toutes choses. Il a créé toutes choses en Jésus. Colossiens 1, verset 16 dit ceci, « Car en lui, c'est-à-dire en Jésus, ont été créées toutes les choses. » Toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, c'est-à-dire les esprits de méchanceté même. Et puis on continue, ils ont été créés en Christ, mais aussi par Christ et pour Christ, et ils continuent à subsister en lui. Donc Jésus-Christ est absolument le maître de toute la création. Même sans parler de sa victoire sur la croix, il est le maître de la création. Toutes choses en lui, par lui, pour lui. C'est absolu. Rien ne s'échappe à notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc, Jésus, Dieu, règne sur toutes choses. Il a tout créé, il règne sur toutes choses, en tout temps, sans aucune exception. De sorte que, en fin de compte, toutes choses servent son but et son dessein. Il n'y a rien qui s'échappe à lui. Maintenant, il y a une rébellion contre Dieu. La rébellion a commencé dans les cieux. La rébellion a passé dans la terre. Et nous connaissons ça et nous discutons cela. Mais Dieu est le roi de tout cela. Il est le souverain. Et même il est totalement souverain sur les puissances des ténèbres. Cette rébellion même est sous son autorité. Même Satan ne peut pas s'échapper de la volonté de Dieu. Et Dieu le contrôle. Dieu façonne l'histoire de notre monde. Il façonne le cours de la vie de chacun de nous. Il façonne la vie de nos églises. Il est là présent. Et Dieu accomplit ses desseins à travers toutes choses. Et donc, ce n'est pas seulement que Dieu utilise certaines choses pour accomplir son dessein. Il opère toutes choses selon le conseil de sa volonté. Ça, c'est la parole de l'apôtre Paul en Éphésiens 1, verset 11. Toutes choses. Et il peut travailler directement dans le monde sans utiliser les agents secondaires. Il peut travailler à travers des anges, il peut travailler à travers des anges déchus, il travaille à travers nous, il travaille à travers des causes, disons, naturelles, les choses qui surgissent dans la nature. À travers toutes choses, Dieu est en train de réaliser son grand et beau et merveilleux dessein. Et ce qui est très important pour nous, c'est qu'il fait ça pour nous. Et donc, Romains 8, 28, que je crois que vous allez connaître bien. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés son dessein. Et ce que Paul veut dire ici, c'est ceci. Au bien de ceux qui aiment Dieu. Quel est notre bien? C'est quel bien ça? Est-ce que ça veut dire que Dieu va faire ce que nous voulons qu'il fasse? Non, pas nécessairement. Est-ce que ça veut dire que si nous n'avons pas beaucoup d'argent, Dieu va nous donner beaucoup d'argent parce qu'il travaille pour le bien de ceux qui aiment Dieu? Non, ça ne veut pas dire ça. C'est Dieu qui détermine ce qui est dans nos intérêts, ce qui est pour notre bien, et ce qui est pour notre bien plus que toute autre chose, c'est notre salut. Et donc, Dieu nous appelle par sa grâce. Dieu nous justifie par sa grâce. Et finalement, Dieu va nous glorifier par sa grâce. Et ça, c'est le bien auquel toutes choses concourent. Dieu fait concourir toutes choses pour le bien-être, c'est-à-dire pour le salut de ceux qu'il aime. Pour le salut, pour qu'ils arrivent finalement à la gloire. Dieu est en train d'agir dans nos vies à travers toutes choses pour nous faire parvenir finalement au Nouveau Jérusalem dans la gloire. C'est ça ce que Dieu est en train de faire pour nous. Et nous devons donc voir la grandeur de Dieu. Il y avait un livre qui a été publié en Angleterre il y a quelques années. Je me rappelle du livre quand j'étais très jeune. Et le titre du livre était celle-ci. Votre Dieu est trop petit. Votre Dieu est trop petit. Ce n'est pas à dire que Dieu est petit, mais c'est que notre conception est souvent trop petite. Nous avons un petit Dieu qui n'est pas capable de faire ces choses et de garder son peuple et de les amener à la gloire et les protéger des sorciers et des malédictions et tout cela. Mais la Bible dit que nous avons un grand Dieu. Je vais vous citer quelques mots du prophète Ésaïe qui était vraiment saisi de la grandeur de Dieu. Il dit ceci, ce sont les mots de l'Éternel. « Je suis l'Éternel, et il n'y en a point d'autre. Je forme la lumière, et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité, et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. » Et puis, continue plus tard. « Car je suis Dieu, et il n'y en a point d'autre. » C'est la même chose, vous voyez. « Je suis Dieu, et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. » Et longtemps d'avance, ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Ça, c'est notre Dieu. Il est un grand Dieu. Il est un Dieu incomparable. Il est un Dieu au-delà de nos conceptions. Nous ne pouvons pas imaginer ce Dieu. Et la Bible nous donne conception de Dieu à travers sa révélation de soi-même. Mais nous devons être saisis de cette conception de Dieu, de sorte que sa façon, notre façon de voir la réalité autour de nous, les difficultés auxquelles nous devons faire face, les souffrances que nous expérimentons, que nous avons un Dieu qui est grand et qui est bon et miséricordieux et qui est juste et qui exécutera toute sa bonne volonté, tout son beau dessein. C'est ça la première chose. Il faut reconnaître le témoignage de la Bible. Deuxième chose, c'est que la mort et la souffrance sont la conséquence du péché. Selon les Écritures, le péché apporte la mort, n'est-ce pas? Le salaire du péché, c'est la mort. Dieu a averti Adam au moment où tu manges du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu mourras certainement. Donc la mort, c'est la conséquence du péché. Et les souffrances qui sont attachées à la mort aussi sont toutes les conséquences du péché. Le résultat de la chute de l'homme et du jugement divin sur l'humanité. Le sol est maudit à cause de nous. À cause de nous et de notre péché. C'est notre péché qui a fait entrer la souffrance dans le monde. Non, ça ne veut pas dire que celui qui souffre a nécessairement commis une faute, un péché qui a produit cette souffrance particulière. Ce n'est pas ça ce que la Bible enseigne. Et nous voyons surtout dans le livre de Job que ce n'est pas ça. Parce que Job avait péché, ses amis ont dit, bon, qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait ceci et cela. Et Job dit, non, je n'ai pas fait ces choses. Je suis innocent. Je connais que je suis innocent. Devant Dieu, je suis innocent. Mais les frères l'ont continué à l'accuser sans évidence. Et finalement, Dieu a justifié Job. Il a dit, Job a parlé de moi d'une manière juste. Et c'était les amis qui étaient à côté, qui avaient tort. Donc, le fait que quelqu'un souffre, même si c'est vraiment, ne veut pas dire qu'il est puni ou elle est punie pour un péché particulier. Il y a du péché dans le monde et des souffrances dans le monde. Les souffrances sont, comme quelqu'un a dit, l'effluent du péché. C'est la saleté que le péché produit. Quand nous étions au Congo, c'était un pays qui, pendant la saison de pluie, était semble-t-il, un peu rempli de boue. Il y avait beaucoup de boue. Les routes n'étaient pas de bonnes routes. Là où on était, il n'y avait pas de routes goudronnées. Les routes étaient, disons, des routes ordinaires d'argile, ainsi de suite. Et quand il pleuvait, il y avait de boue, et parfois de grands trous avec de grands flaques d'eau. On pouvait se noyer dans ces trous. Je n'exagère pas. Ils étaient graves. Parfois, tu descendais avec la voiture dans un trou, avec beaucoup d'eau. Et donc, le boue est presque à ce niveau sur la voiture, à côté de la voiture. C'était grave. Et donc, vous rentrez d'un voyage, la voiture, même vous-même, on est couvert de boue. Parce que la voiture a traversé la boue et de temps à autre, on doit sortir de la voiture pour pousser la voiture parce que c'est embourbé dans le boue. Et vous arrivez à la destination et quelqu'un dit, bon, cette boue, comment est-ce que vous avez sali vos vêtements? Comme ça. Comment est-ce que comme ça? Qui a fait ça? Est-ce que vous avez eu un conflit avec quelqu'un qui a jeté de la boue sur vous? Et vous répondez, est-ce que vous avez vu dehors? Les routes sont remplies de boue. On marche dans cette boue, on voyage dans cette boue. Comment est-ce qu'on ne va pas être touché par la boue quand vous marchez dans cette boue? Et donc nous sommes dans un monde de souffrance, dans un monde de deuil, dans un monde d'accidents, de microbes, de virus, et ainsi de suite. Comment est-ce qu'on ne va pas être touché par ça? C'est ça le monde que nous habitons. C'est un monde où la souffrance est entrée et à cause du péché. Et donc, si on marche dans ce monde, si on vit dans ce monde, on va nécessairement souffrir. On ne peut pas l'échapper. Et ça veut dire, vous voyez, qu'on n'a pas besoin de chercher des causes personnelles pour chaque souffrance. Parmi les Zoulous, vous connaissez, c'est un groupe ethnique en Afrique du Sud. C'est un grand groupe ethnique. Et dans le temps, ils étaient de grands guerriers, les Zoulous. Mais les Zoulous, ils ont un proverbe. Et le proverbe, c'est ceci. Il y a toujours quelqu'un. Il y a toujours quelqu'un. C'est-à-dire, quand on tombe malade, quand il y a un cas de deuil, quand il y a un problème quelconque, quand il y a un manque de fertilité, les champs ne produisent pas, ou bien votre épouse n'a pas d'enfant, quand il y a de tels problèmes, il y a quelqu'un. Quelqu'un a fait ça. C'est l'ancêtre, ou c'est le sorcier, ou c'est un esprit quelconque qui rôde, cherchant à faire des dégâts quelque part, mais il y a quelqu'un. Il y a toujours, toujours quelqu'un. C'est ça une conception des humains. Je crois que c'est un peu répandu sur le continent de l'Afrique, cette conception. Et il y a une certaine, je vois une certaine valeur dans cela, dans le sens qu'on cherche une raison. Pourquoi est-ce que ça est arrivé? Et donc ça répond à une question, ça donne une sorte de réponse. Mais la Bible dit, on n'a pas besoin de chercher toujours une personne. Les souffrances sont là parce que le péché est là. Et tout comme si vous faites une promenade, un jour de grande pluie, quand il y a beaucoup de boue, vous serez touché par la boue, vous allez rentrer, les vêtements un peu salis. Si vous vivez dans ce monde assez longtemps, et pas assez longtemps, je veux dire 2-3 semaines, si vous vivez dans ce monde assez longtemps, vous allez souffrir. Et au fur et à mesure que la vie avance, vous allez souffrir. Et ce n'est pas à cause d'une autre personne. Le problème, c'est ce monde déchu et donc la souffrance qui en est le résultat. Donc, quelques témoignages bibliques. Je veux seulement vous donner ça. J'essaie d'être rapide avec ceci. Mais Luc 13, 1 à 5. Il y avait un incident à Jérusalem quand certains Galiléens ont souffert à Jérusalem. Ils ont souffert à cause de violence. Ils étaient des victimes. C'était une violence politique, il faut dire. Et Jésus a posé une question. Croyez-vous que ces Galiléens fussent de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous répondez, vous périrez tous également. La mort, le péché, la souffrance, sont à cause du péché. Ces victimes, et Jésus a parlé aussi d'un autre incident à la même époque, ces victimes n'étaient pas plus méchants. Ils n'avaient pas été visés par un sorcier. Ce n'était une malédiction. Ils étaient des pécheurs. Comme nous tous des pécheurs. Ils sont morts. Ils ont souffert. Ils sont morts. Un autre exemple. Paul a encouragé Timothée à boire un peu de vin. Nous n'allons pas discuter le vin cet après-midi. Si ça, c'est un problème pour vous, on va discuter ça autrement. Mais Paul a encouragé Timothée à boire un peu de vin à cause de son estomac et de ses fréquentes maladies, fréquentes indispositions. C'est comme si l'eau dérangeait l'estomac de Timothée. Je crois qu'il avait un estomac un peu faible. Je connais un peu l'expérience. Et je suppose que c'était la diarrhée, peut-être c'était les vomissements. Paul dit, Timothée, vous êtes toujours troublé avec ça. Il faut laisser un peu l'eau, parce que l'eau peut être sain. Il faut boire quelque chose qui va vous arranger et pas vous déranger. Donc, prenez un peu de vin à cause de votre estomac. Maintenant, notez que Paul n'a pas spiritualisé le problème. Je ne sais pas s'il y a un verbe spiritualiser en français, mais je viens de l'inventer, s'il n'y en a pas. Bon, Paul n'a pas spiritualisé le problème. Il n'a pas dit, Timothée, il y a un sorcier qui te poursuit. Il faut l'identifier. Timothée, il y a une malédiction, il faut le révoquer. Il a dit, Timothée, soyez sage. Un peu de vin, ça va vous aider. C'est naturel. Dans ce monde, il y a de tels problèmes. Et donc, on prend des dispositions qui peuvent être plus favorables. Deuxième exemple. Quand Paul était à Rome, emprisonné, il y a un homme qui s'appelle Épaphrodite, qui est venu de Philippe avec un don financier pour l'apôtre Paul. Il est en prison. Je ne crois pas que les Romains nourrissaient et soignaient le prisonnier. Il fallait les amis qui pouvaient venir, qui puissent venir pour aider les prisonniers. Et donc cet Épaphrodite, il avait été envoyé par les Philippiens pour aider Paul. Il est tombé malade quand il est arrivé à Rome. Il était gravement malade. Il était prêt de mourir. C'est Philippiens 2, verset 25, 26, 27, et ainsi de suite. Et finalement, il est guéri. Mais Paul n'a pas expliqué ça d'une manière spirituelle. C'était quelque chose qui arrive. Il avait fait un long voyage, peut-être qu'il avait attrapé quelque chose en route, et maintenant arrivé à Philippe, c'est la maladie. Il est presque mort. Et Paul, dans le rapport pour les Philippiens, parce qu'ils avaient écouté pour veulent qu'ils sachent que maintenant il est rétabli. La maladie était simplement une chose qui s'est produite dans un monde déchu et rempli de souffrance. Et donc cet homme a été touché. Et de même, il y a autre cas, 2 Timothée 4, verset 20, c'est presque à la fin des épîtres de Paul. Paul dit, j'ai laissé Trophime malade à Milet. Très bref. Paul explique pourquoi certains gens ne sont pas avec lui. Il est encore en prison. C'est un deuxième emprisonnement à Rome. Mais cet homme l'avait accompagné. On suppose qu'il l'a accompagné à Rome, mais il est tombé malade. Il ne pouvait pas continuer à cause de la maladie. Paul a continué. Je l'ai laissé malade à Milet. Et donc, pas de raison. Il n'a pas donné d'explication. C'était ceci, c'était cela, c'était un esprit, c'était un sorcier. Il est malade, c'est normal. C'est normal dans un monde qui est tombé, déchu. Et là où il y a des souffrances comme conséquence de ce péché, cette chute qui a eu lieu. Et donc, nous devons reconnaître ça, tu crois. La souffrance, c'est normal. Et pour nous, les chrétiens, à l'époque actuelle, il ne faut pas supposer, parce que nous sommes des chrétiens, nous serons épargnés des maladies. Ce n'est pas promis dans les Nouveaux Testaments. Bien sûr, arrivés au ciel, nous aurons de nouveaux corps, des corps de résurrection, des corps forts et glorieux qui ne tombera jamais plus malade. Mais pour le moment, nous avons ces corps qui sont des corps faibles, qui sont des corps fragiles. Et nous tombons malades et finalement, pour nous tous, à moins que le Seigneur ne revienne avant, nous allons tous mourir. Je vous le garantis. Je ne suis pas un prophète, mais je vous le garantis. Nous allons tous mourir à moins que le Seigneur n'arrive avant notre mort. Parce que nous habitons un monde de péché et les chrétiens sont touchés aussi. Concernant Satan et la souffrance, le grand but de Satan n'est pas de nous faire souffrir physiquement. Ce n'est pas ça son intention. C'est d'assurer notre condamnation éternelle et notre destruction totale. Ça, c'est ce qu'il vise. Il ne joue pas avec nous pour nous donner des souffrances, pour que nous ayons, disons, le COVID, le rougeole, de telles choses. Il veut notre damnation. Il veut que nous ayons à l'enfer. C'est ça son but, c'est ça son dessein. Il est meurtrier. Il tue, pas seulement physiquement, mais spirituellement. Et ça, c'est son grand désir. Ça, c'est le sens de la tentation d'Adam et Ève. Et ça, c'est ce qu'il fait maintenant jusqu'à aujourd'hui. Et donc, nous devons reconnaître ça. Maintenant, comment répondre à la souffrance? Seulement trois points à dire. D'abord, nous cherchons le soulagement, l'aide auprès de Dieu. Ça n'exclut pas que nous allons auprès du médecin, au dispensaire, à l'hôpital, et ainsi de suite, pour avoir des médicaments, mais aussi avec nos plaintes, nos lamentations, nos questions, nous allons auprès de Dieu. C'est Dieu, après tout, qui est le maître de toutes choses. Nous allons commencer là. Il est celui qui a tout créé, il est le Seigneur de tout, et quand nous allons auprès de lui, c'est lui seul qui a la solution. La solution n'est pas auprès des esprits, auprès des sorciers, la solution c'est auprès de Dieu. Et ça, c'est ce que nous trouvons dans la Bible. On mentionne seulement les psaumes. En tous les psalmistes qui vont auprès de Dieu avec leur lamentation, leur plainte, leur tristesse, leur douleur, parce qu'ils connaissent que Dieu est grand, que Dieu est le roi, disons, de ce monde tout entier, et que Dieu peut les aider. Dieu peut les consoler, Dieu peut les soulager, Dieu peut même les guérir. Et donc, ils vont auprès de Dieu, de Dieu. Deuxièmement, il nous faut nous rappeler comment Dieu utilise nos souffrances. Il y a une chose merveilleuse dans l'Évangile, que même les souffrances peuvent être bénies pour nous. Maintenant, ça ne veut pas dire que les souffrances sont une bonne chose comme telle. Une maladie est une mauvaise chose. Deuil est une mauvaise chose. Ce n'est pas une bonne chose. Et donc, nous luttons contre les maladies. C'est pour ça qu'il y a des hôpitaux, des médecins, et ainsi de suite. Nous luttons, nous ne sommes pas fatalistes. Nous ne sommes pas passifs face aux souffrances. Nous ne disons pas, bon, si Dieu a permis, je l'accepte et je vais souffrir. Non, on va auprès de médecins pour chercher la guérison, si possible. Mais si les souffrances sont là et les souffrances persistent, nous reconnaissons que Dieu a un bon dessein, même à travers les souffrances, même dans la maladie. Et la Bible dit ça à maintes reprises. Par exemple, dans le Nouveau Testament, je vais citer les références très vite. Romains 5, 3 à 5. Jacques 1, 2 à 4. 1 Pierre 1, 6 à 7. Et puis Hébreux 12, 5 à 11 nous dit que Dieu est notre Père et nous discipline. Et la discipline est pénible. Mais quel père ne discipline pas ses enfants? Si un père ne discipline pas ses enfants, ça veut dire probablement que ce ne sont pas vraiment ses enfants. Parce que si ce sont ses enfants, il aime ses enfants. Il ne va pas les laisser s'égarer, faire des bêtises, ainsi de suite. Il les discipline et c'est ce que Dieu fait. À travers les souffrances, Dieu est en train de nous transformer selon l'image de Christ. Il est en train de développer nos caractères chrétiens. Il est en train de nous sanctifier. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont témoigné qu'ils ont grandi surtout dans la foi pendant les moments difficiles. Il y a peu de chrétiens qui vont dire « C'était pendant des moments faciles que j'ai beaucoup grandi dans le Seigneur. » Ça, ce n'est pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Dieu travaille à travers nos souffrances et nos difficultés pour nous transformer selon l'image de Christ. Et puis, troisièmement, quand nous réagissons face aux souffrances, nous savons que notre Sauveur a vaincu le péché et la mort et qu'il règne pour son Église. Et que dans toutes choses, il est de notre côté. Dieu est pour nous. Paul se dit ça en Romains 8. Dieu est pour nous. Si Dieu est pour nous, qu'est-ce qui peut être contre nous? Même la maladie ne peut pas être contre nous parce que Dieu doit transformer ça pour que c'est pour nous et que ça va concourir à notre bien. Ces choses devraient pénétrer nos cœurs. Nous devons les croire, pas seulement intellectuellement, mais de nos cœurs, pour que quand les souffrances arrivent, nous sachions comment réagir. Il y a un auteur qui a écrit sur ces choses, les souffrances, et il a dit, en tant que chrétien, nous devons vraiment avoir une bonne théologie de souffrance avant que la souffrance ne tombe. Parce que quand on commence à souffrir, ça peut être si pénible, si émotionnel, que c'est difficile maintenant à raisonner, à reconnaître ce que Dieu est en train de faire. Nous devons avoir une compréhension de ce que Dieu est en train de faire à travers les souffrances et pourquoi les souffrances sont là. Bon, nous passons aux mauvais esprits. Les esprits ne gouvernent pas ce monde. C'est la première chose à dire. Les esprits ne gouvernent pas ce monde. Les esprits ne façonnent pas nos vies. Les esprits ne déterminent pas ce qui nous arrive. Tout cela, c'est Dieu. C'est Dieu qui règne. Les esprits ne règnent pas. Et donc, c'est selon sa volonté que nous pourrions connaître la bonne ou la mauvaise santé, la richesse ou la pauvreté, le succès apparent ou l'échec apparent. Et ça, c'est une vérité biblique fondamentale. Encore la grandeur de Dieu. Est-ce que notre Dieu est assez grand? Maintenant, l'idée qu'il y avait des démons qui causaient des maladies était bien répandue dans le monde de l'époque. Donc, dans les pays comme l'Égypte, la Syrie, la Babylonie, les gens croyaient que quand ils étaient malades, c'est possiblement un démon. Et donc, ce qu'il fallait, c'est négocier avec le démon, ou expulser le démon, ou faire quelque chose avec le démon pour être libéré de la maladie. Mais ces idées n'ont pas vraiment pénétré l'Ancien Testament. On ne trouve pas ça partout dans l'Ancien Testament, même du Nouveau Testament non plus. Il y a quelque chose, certaines choses que nous pouvons voir, et nous allons voir ces choses brièvement. Premier lieu, l'Ancien Testament, dans deux versets, identifie les démons avec leur fausse religion. Quand Israël a adoré les idoles dans le désert, derrière les idoles, il y avait des démons. L'apôtre Paul dit la même chose en 1 Corinthiens 10. Il parle aux chrétiens qui étaient tentés à aller au temple des idoles pour participer dans les sacrifices dans les temples. Et Paul dit, quand vous faites ça, vous avez la communion avec les démons. Comment la communion avec Christ à la table du Seigneur et la communion avec les démons avec la table de l'idolâtrie? Commençons. Il y a des démons derrière la fausse adoration. Ça, c'est une chose que nous apprenons. Et donc, ça coïncide avec ce que nous avons dit concernant Satan, qu'il est menteur. Et les fausses religions propagent les mensonges, sont fondés sur des mensonges. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas du tout de la vérité dans ces religions. Mais en gros, dans l'ensemble, elles sont en erreur. Et ce qu'ils enseignent n'est pas la vérité. Deuxième chose, nous voyons comment Dieu règne sur les esprits. Et je vais citer trois versets ici. Premier verset concerne un des rois dont le nom était Abimelech. Il était le plus méchant des rois des juges. Un roi plutôt, pas un roi. Il était le plus méchant des juges de l'Ancien Testament, Abimelech. Il était juge dans la ville de Sichem, en Israël. Et il a fait une sorte d'alliance de méchanceté avec les habitants de Sichem. Mais Dieu a frustré cette alliance. Et donc ici, c'est le verset Juges 9:23. Dieu envoya un mauvais esprit entre Abimelech et les habitants de Sichem. Et les habitants de Sichem furent infidèles à Abimelech. Donc Dieu a rompu cette alliance. Il a brisé cette combinaison d'Abimelech avec les habitants de Sichem. Deuxième chose, quand Saul a désobéi et le juge Samuel a oint Jésus comme roi, la Bible dit ceci: l'Esprit de l'Éternel se retirait de Saul, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Un mauvais esprit venant de l'Éternel. Troisième verse. Et ceci concerne le roi Achab, qui était un roi méchant d'Israël, du royaume du Nord, qui a conduit son peuple dans l'adoration des Baals, des dieux de Canaan. Et donc Dieu a envoyé un esprit menteur dans la bouche des prophètes d'Achab pour que ces prophètes l'amènent à la mort. Et ici c'est le verset. Et maintenant voici, l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous les prophètes qui sont là. Et l'Éternel a prononcé du mal contre toi. L'Éternel a envoyé un esprit de mensonge. Dans les trois cas, il n'est pas clair si l'esprit est par nature méchant et mensonger, ou si la méchanceté est le mensonge et seulement ce que l'esprit a produit, si vous suivez la différence. Est-ce que l'esprit est comme tel un mauvais esprit, un démon? Ou est-ce que c'est un ange de Dieu que Dieu a utilisé pour semer le désaccord, pour mal communiquer à travers les prophètes? C'est clair que dans tous les cas, c'est Dieu qui a envoyé l'esprit. L'esprit n'est pas allé de sa propre volonté. C'est Dieu qui a utilisé l'esprit. Ça peut suggérer que ce sont de bons esprits. Mais pas ça peut suggérer aussi que Dieu peut utiliser les mauvais esprits. Et la Bible n'est pas claire. Il y a une ambiguïté dans les textes. C'est quel genre d'esprit? Et la réponse finale, c'est que ce n'est pas important. Si c'est un bon esprit ou c'est un mauvais esprit, c'est soumis à la souveraineté de Dieu. Et Dieu peut l'employer comme il veut, selon sa souveraineté. Et dans tous les trois cas, l'esprit est utilisé par Dieu pour effectuer ses décisions de jugement. Pour juger Abimelech et les Sichémites, pour juger le roi Saul et pour juger le roi Achan. Le grand point est que Dieu est le Seigneur de tout ce qu'il a créé. Il utilise les esprits, bons ou mauvais, pour accomplir sa volonté. Et donc, notez la réticence de la Bible concernant les esprits. La Bible n'en parle beaucoup. Maintenant, évidemment, les esprits sont dans un domaine invisible. Nous ne voyons pas les esprits. Ils ne sont pas visibles. Par définition, ils ne sont pas visibles. Et c'est comme si, pour nous, il y a un rideau qui les cache. Un rideau, ça va? Et Dieu ne lève que rarement le rideau pour que nous puissions savoir ce qui se passe derrière le rideau. Et ça, c'est parce que nous n'avons pas besoin de savoir. Et il ne faut pas spéculer. Et donc, Dieu peut employer un mauvais esprit, un bon esprit, un ange, un démon. Ce n'est pas notre affaire. C'est Dieu qui décide. Et donc, cela étant, nous ne devrions pas combler nos ignorances, notre ignorance, avec les spéculations. Normalement, dans la Bible, quand Dieu agit, on voit qu'il agit directement par des moyens visibles. Et donc, Dieu punit la génération de Noé avec un déluge. On ne sait pas, est-ce qu'il y avait un esprit impliqué dans cela ou non? On ne sait pas. Peut-être, peut-être non. Ça ne fait rien. Plus tard, il va juger les gens à Babel. Est-ce qu'il emploie un ange pour faire cela ou non? Nous ne savons pas. Plus tard, il va employer l'empereur Cyrus de Perse pour libérer son peuple. Est-ce qu'il y avait un ange qui a participé dans cela, un esprit ou non? Nous ne savons pas. Et tout cela parce que nous n'avons pas besoin de savoir. Et nous devons respecter le fait qu'il y a des choses que Dieu ne révèle pas, et il ne les révèle pas parce que nous n'avons pas besoin de savoir, et nous ne devons pas chercher à supposer ce qui s'est passé, et à inventer des histoires là où il n'y a pas de révélation claire de la part de Dieu. Bon, je veux prendre un cas particulier, et c'est le cas de Job. L'histoire de Job est très importante dans l'Ancien Testament pour beaucoup de raisons. C'est un homme innocent qui a souffert, mais Satan était impliqué dans ses souffrances. Quoi que vous savez cela. C'est Satan qui a infligé les souffrances. Satan qui a effectivement tué ses enfants. Satan qui a enlevé sa prospérité. Et Satan qui a affligé son cœur pour qu'il soit tellement malade. Et donc c'est là au commencement, la mention de Satan, chapitre 1 et 2. Et puis vers la fin, on parle de deux monstres, Léviathan et Béhémoth. Et ce sont aussi, je crois, des métaphores pour les forces spirituelles de méchanceté. Donc, le livre affirme que derrière les épreuves de Job, il y avait quand même une puissance surnaturelle de méchanceté, et c'est Satan. Dans ce cas, nous le savons parce que la parole de Dieu nous le dit. Mais nous ne pouvons pas généraliser et dépendre. Dans toutes nos souffrances, il y a Satan, il y a un démon. Le livre ne dit pas cela. Le livre dit, dans ce cas, il y avait une rencontre entre Dieu et Satan, et le fruit de cette rencontre était les souffrances de Job. Un cas particulier, un cas peut-être absolument unique. Nous ne savons pas. Mais ce cas aussi peut nous enseigner. Ça nous enseigne quatre choses, très brièvement. D'abord, la souveraineté de Dieu. Satan a pu affliger Job seulement parce que Dieu l'a permis. Et ça, c'est écrit dans le livre, chapitre 1 ou 2. D'abord, Dieu a dit, bon, vous pouvez donc affliger Job, mais pas son corps. Et donc, Satan a attaqué sa famille, Satan a attaqué ses richesses, mais pas son corps. Puis Dieu a dit, vous pouvez attaquer son corps, mais vous ne pouvez pas ôter sa vie. Et donc Satan l'a affligé avec une maladie terrible, mais n'a pas pu ôter sa vie. Mais dans cela, vous voyez que Dieu a permis, et puis il a établi des limites. Et Satan ne pouvait pas dépasser les limites. Si Dieu établit les limites, ce sont les limites. Et Satan est limité par les limites que Dieu a établies. Deuxième chose, quand Job a souffert, il est allé auprès de Dieu avec ses souffrances. Il y a beaucoup de discours de Job dans le livre. Si vous avez lu le livre, vous savez ça. Beaucoup de chapitres, c'est Job qui parle. Souvent, il parle avec ses amis, mais à travers ses conversations aussi, il s'adresse à Dieu. Il se plaint, il pose des questions, il est en détresse, il se lamente. Pourquoi? Comment? Quand est-ce que Dieu va me donner une audience pour que je puisse présenter mon cas et le convaincre de mon innocence? Ça va? Mais c'est ça le point du livre. Il se rend seulement auprès de Dieu. Il vit dans ce monde où il y avait quand même connaissance des devins, des marabouts, bon, avec d'autres noms évidemment, des sorciers, des esprits et tout ça. Mais ce genre de choses n'entre jamais dans la bouche de Job. Pour Job, c'est Dieu le souverain. Et s'il y a une solution, s'il y a un soulagement, s'il y a un remède, une guérison, c'est Dieu et Dieu seul qui peut le faire. Inutile d'aller ailleurs. Parce que si Dieu a déterminé, qui peut arrêter ce que Dieu a déterminé? C'est Dieu seul qui peut mettre fin à ce que Dieu a permis au commencement. Et donc, c'est un modèle pour nous. Dans nos plus grandes détresses, et dans toutes nos détresses, nous irons auprès de Dieu. Nous n'avons pas besoin de savoir est-ce que c'est un démon, est-ce que c'est un esprit, est-ce que quelqu'un a fait quelque chose de douteux contre moi. Bon, ce n'est pas ça. On va auprès de Dieu, parce que c'est Dieu le souverain de toutes ces choses. Rien ne se passe dans ce monde à part la souveraineté de Dieu. Troisièmement, notez encore, le but de Satan n'est pas seulement d'affliger Job, c'est de faire maudire Job. Il veut que Job maudisse Dieu. Et donc, Satan accuse Job, et il accuse Job d'hypocrisie. Dieu a dit à Satan, « Est-ce que vous avez vu mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui dans le monde tout entier. Comment? Voyez comment il craint Dieu. » Et Satan répond, « Est-ce qu'il te craint pour rien? Est-ce que tu ne l'as pas protégé? Tu as mis une barrière autour de lui, rien ne peut le toucher. Il a cette grande famille, il a toutes ses richesses, il a la bonne santé. Mais je te dis, si tu enlèves sa défense, si tu enlèves la barrière et qu'il souffre, il te maudira. Il te maudira. » C'est ça ce que Satan dit. Et Dieu dit, bon voilà, vous allez essayer. Et comme nous avons dit, Dieu a établi les limites. Satan a attaqué ses biens, sa famille, et Job a dit, que le nom de l'Éternel soit béni. Au lieu de malédiction, il y a la bénédiction. C'est le contraire de ce que Satan a dit. Ça dit, bon, quoi, mais quand même, vous touchez son corps. Vous ne m'avez pas permis de toucher son corps, mais touchez son corps, il va te maudire. Et donc Dieu a dit, bon, ça va, vous pouvez toucher son corps, mais pas le tuer. Et Satan a touché le corps de Job. Et Job toujours a refusé de maudire Dieu. L'épouse de Job a dit à Job, maudit Dieu et meurt. Maudit Dieu et meurt. Et il a dit, est-ce que tu es une femme insensée? Est-ce que nous n'allons pas recevoir de bonnes choses de Dieu et aussi de mauvaises choses? Maintenant, il faut dire chapitre 3 et les chapitres suivants. Il y a beaucoup de plaintes, beaucoup de questions, beaucoup de détresse. C'est difficile à lire ces chapitres à cause de la douleur qui s'exprime d'un verset à l'autre. Il a beaucoup souffert. Mais Dieu avait raison. Il n'était pas hypocrite. Il n'a jamais abandonné sa foi en Dieu. Il a toujours accepté que ses souffrances viennent de Dieu. Et c'est Dieu seul qui peut enlever les souffrances. Et Dieu est finalement fidèle. Elle a mis sa confiance en Dieu, même à travers toutes les plaintes et les difficultés. Il est resté fidèle. Et finalement, notez le dessein de Dieu. Dieu a fait du bien. À la fin, Job dit ceci. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Et donc il est arrivé à une plus grande conception de Dieu. Il a vu Dieu plus clairement. Et n'est-ce pas? Le but de notre vie, c'est de connaître Dieu. C'est pour ça que nous avons été créés, pour connaître Dieu, pour avoir la communion avec Dieu, pour la vision de Dieu. C'est ce que Moïse voulait dans le désert. Je veux te voir. Montre-moi ta gloire. Il voulait voir le Seigneur Dieu. Et Job, à travers les souffrances, plus qu'avant les souffrances, il a vu Dieu d'une manière qu'il ne l'a pas vu avant. Et donc, ce n'était pas la prospérité qui lui a donné cette vision de Dieu. C'était l'adversité qui lui a donné cette vision de Dieu. Donc, considérons maintenant les esprits dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, on parle d'une manière assez générale de la connexion entre Satan et les souffrances. Et donc ici, c'est Pierre, il est en train de prêcher l'évangile à Cornée dans le livre des Actes des Apôtres. Et il parle du ministère de Jésus. Il dit de Jésus, « Jésus allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire de Satan. » Donc, il suggère que ceux qui étaient malades, ceux qui souffrent, sont sous l'empire de Satan, du diable. Et ce qu'il veut dire, je crois, c'est ceci, que la souffrance est dans le monde parce que Satan a introduit le péché dans le monde. En fin de compte, la source du péché, c'est Satan qui a tenté l'homme et la femme. Ils sont tombés dans le péché. Et dans ce sens, le péché et donc la mort, les souffrances sont là à cause du péché. Et donc, d'une manière générale, quand nous souffrons sous l'empire, sous le joug de Satan, du diable. De même, dans la Bible, dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 2, verset 14, on décrit Satan comme celui qui a la puissance de la mort. Ce n'est pas dire que Satan détermine quand chaque personne mourra, c'est Dieu qui détermine cela. Mais c'est Satan qui a introduit le péché. Et le péché produit la mort. Et c'est dans ce sens que Satan a la puissance de la mort. Du point de vue de maladie physique, il y a seulement deux personnes dans le Nouveau Testament de qui on peut peut-être dire que leur maladie était causée. Maladie, pas possession. On arrive à la possession plus tard. La maladie a été causée par Satan. Première personne, c'est Luc 13, verset 10 à 17. C'est une veuve assez vieille qui souffrait d'une dos qui était courbée. Elle ne pouvait pas se tenir debout, donc elle était constamment courbée. Il y a un mot technique médical pour cette condition, mais elle avait souffert de ça pendant 18 ans. Et la Bible nous dit qu'elle avait un esprit de faiblesse, un esprit de faiblesse. Et puis Jésus dit que Satan l'avait gardée liée pendant 18 ans. Maintenant, certains supposent que peut-être elle est possédée par un démon. Et l'affliction vient de la possession. Mais ça semble peu probable parce que dans le récit de cette femme, il n'y a pas les mêmes choses qu'on aurait supposé voir si elle était possédée. Par exemple, il n'y a aucune référence aux symptômes typiques de possession démoniaque. Il n'y a pas de démon qui va parler. Souvent dans les gens de qui Jésus expulse les démons, le démon parle, ou les démons, dans le cas des Gadaréniens. Donc il n'y a pas de démon qui parle. Quand Jésus chasse les démons, normalement il ne touche pas la personne. Mais ici il touche la femme. Mais normalement il ne fait pas ça quand il va chasser un démon. Et aussi ici, le langage d'expulsion est absent. Normalement quand Jésus expulse un démon, il réprimande le démon. Il dit au démon de sortir de la personne en question. Mais ici, il dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. Tu es délivrée de ton infirmité. » Il ne reproche pas Satan. Il ne chasse pas un démon. Et donc, il semble que c'était une maladie, mais une maladie causée par Satan, au moins dans un sens général. C'est l'unique cas clair dans le Nouveau Testament d'une personne malade à cause d'un démon. Maintenant, deuxièmement, il y a le cas de Paul en 2 Corinthiens. Et Andrew a mentionné ceci, je crois, hier, qui avait l'épine dans la chair, un messager de Satan. Messager de Satan, c'est presque certainement un démon, un esprit impur. Messager, le mot est ange. Ça, c'est l'autre traduction. C'est le même mot, bon, le mot ange en grec veut dire messager. Donc, un messager de Satan, c'est un ange de Satan qui m'a été donné. Mais il semble que tout cela s'est fait sous l'autorité de Dieu. Et il y a deux choses. Paul dit, il m'a été donné une épine dans la chair. Il m'a été donné. Donc, qui a donné? Il m'a été donné un messager de Satan. Qui a donné ce messager? Et normalement, quand on utilise le verbe dans ce sens, et en quelque sorte, ça s'appelle la voix passive. Mais quand on emploie cette forme du verbe, le sujet du verbe n'est pas clair. Et le plus souvent, dans de tels cas, c'est Dieu le sujet. C'est ce qu'on appelle un passif divin. C'est Dieu le sujet. Il m'a été donné, Dieu m'a donné. Et puis Paul continue à dire qu'il y avait une raison pour laquelle Dieu a fait cela. Et c'était que Paul reste humble. Parce que Paul avait vu des visions extraordinaires au ciel. Et le danger, c'est l'orgueil. Et si Paul devient orgueilleux, il ne sera pas utile pour le service du Seigneur. Il va abîmer son propre ministère. Et donc Dieu affaiblit Paul pour que Paul puisse être utile dans le service de Dieu. Et donc Paul dit, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort dans le Seigneur, en Christ. Et c'est ça sa réponse. Nous ne savons pas en fait si l'épine dans la chair était physique ou non. Parce que même ça, Paul ne nous dit pas. Ça peut être autre chose, ça peut être une circonstance, une autre chose. Je crois personnellement que c'est une maladie. Mais nous ne savons pas. Mais ce sont les deux seuls cas clairs dans le Nouveau Testament. Des gens, des chrétiens disons, des personnes qui connaissent le Seigneur, qui ont souffert des attaques des esprits. Maintenant, finalement, je veux parler un peu de possession, la possession démoniaque. Le phénomène de possession ou de diabolisation n'est pas clairement évident dans l'Ancien Testament. En fait, je crois que ce n'est pas là, dans l'Ancien Testament. On trouve ça seulement dans le Nouveau Testament, surtout en Matthieu, Marc et Luc, et puis un cas dans les Actes des Apôtres. Et donc, on trouve ça seulement dans le Nouveau Testament. Il semble que les gens de l'époque pouvaient facilement reconnaître quand une personne était possédée ou diabolisée par un démon. C'était reconnaissable. Et donc, nous croyons cela parce qu'il y avait un cas quand une femme, c'était une femme cananéenne, est venue auprès de Jésus pour dire « Ma fille est gravement troublée par un esprit. » Voyez, chasser l'esprit. Et Jésus n'est pas allé la voir. Il n'a pas vu la fille. Elle était à la maison. Et n'a pas dit, bon, d'abord je dois venir voir pour vérifier. Il a accepté l'évidence, la femme. Il a prononcé l'expulsion du démon. Et là, à la maison, la fille a été guérie. Et donc les symptômes étaient tels que les gens pouvaient reconnaître si quelqu'un était possédé. Maintenant, l'idée de possession, le mot possession n'est pas tellement un mot biblique. Diabolisation, c'est peut-être un meilleur mot, ou démonisation, si ça c'est un mot français, je ne sais pas, mais de tels mots on peut employer. Merci beaucoup pour le rappel. Nous avons 10 minutes, j'ai 10 minutes. Donc, merci beaucoup. Et donc, démonisation, si ça c'est un mot français, on peut l'employer. Mais ce que ça veut dire, c'est que une volonté, par la volonté de la personne, a saisi le contrôle de la personne. C'est ça ce qui se passe. Ça ne veut pas dire nécessairement que l'esprit est entré dans la personne, mais l'esprit a saisi le contrôle. Il contrôle la personne. Ou plutôt à certains moments, peut-être, il contrôle la personne. Donc, quels sont les symptômes selon le Nouveau Testament? Et je vais seulement vous donner la liste que je l'ai identifiée. Il y a d'abord une personnalité étrangère. Il y a une personnalité autre que la personnalité de la personne. Il y a quelqu'un qui parle, qui n'est pas la victime. Et donc, l'esprit parle à travers la personne. Donc, quand Jésus a demandé aux Gadaréniens, qui avaient une légion de démons, quel est ton nom? Ce sont les démons qui ont répondu. Nous sommes, le nom est légion, parce que nous sommes beaucoup, nous sommes nombreux. Le nom est légion. C'est le démon qui parle, c'est le démon qui s'exprime. Et il y a d'autres cas aussi, à Capernaum aussi, c'était la même chose. Il y avait aussi parfois l'automutilation. L'automutilation, ça veut dire que les gens possédés risquaient de se nuire, de nuire à leur propre corps, de s'attaquer physiquement. Et donc, avec le cas de cet homme qui avait la légion de démons, il se blessait avec les pieds. Il utilisait les pieds pour s'attaquer, pour attaquer son corps et pour... Donc, se blesser. Avec le cas, il y avait un garçon, quand Jésus est descendu de la montagne de Transfiguration, il y avait un garçon qu'il a rencontré qui était gravement possédé. Et son père a dit que le démon, quand il possédait ce garçon, il le jetait dans le feu et dans l'eau pour le tuer. Et donc, il se blessait aussi. Il semblait vouloir se suicider. Et le démon aussi le convulsait, le brisait. Donc, c'était un très grave cas. Il y avait parfois des capacités extraordinaires. Ce gadarénien aussi, on voulait le lier, mais il était très fort. Et quand on le liait avec les fers, il brisait les fers pour s'échapper. On ne pouvait pas le lier. Et donc, il vivait une vie solitaire dans la cimetière, parmi les tombeaux. Et dans d'autres cas, les démons ont reconnu le Seigneur. Les démons connaissaient le Seigneur. Ils connaissaient qu'il était le Saint de Dieu. qu'il était le Messie. Et il cherchait à le confesser. Mais Jésus les faisait taire. Autre symptôme, il y avait souvent des symptômes physiques. Avec le garçon qui se jetait dans l'eau et dans la mer, c'est comme s'il souffrait des convulsions d'épilepsie, des crises épileptiques. Il y avait un autre qui souffrait du mutisme, il ne pouvait pas parler. Il y en avait un autre qui est aveugle, il ne pouvait pas voir. Il faut noter, il faut être bien clair ici. Le fait que quelqu'un souffre du mutisme, ou il est aveugle, ou bien il souffre de l'épilepsie, ne veut pas dire qu'il est possédé. Il faut être clair, très clair. C'est seulement que les démons, quand ils commencent, ils cherchent à détruire toute la personne. Ce n'est pas seulement l'intelligence, les émotions, mais la personne dans son entièreté. Le but, c'est la destruction. Et donc, on détruit la personne par plusieurs moyens et dans plusieurs domaines. Il y a des symptômes psychologiques et émotionnels. Et donc, la possession produisait souvent un dérangement émotionnel, psychologique, moral, des troublements. Il faut encore souligner le fait que quand quelqu'un est troublé émotionnellement, psychologiquement, ça ne veut pas dire nécessairement que cette personne est possédée. On ne peut pas dire, voilà, il est mentalement troublé, il est possédé. Non, ce n'est pas ça. On peut souffrir d'une maladie de cerveau, ainsi de suite, émotionnelle, qui peut aussi être traitée par les médicaments et par les conseils, et ainsi de suite, et qui ne veut pas dire nécessairement qu'on est possédé. Mais notez certains symptômes ici. Le gadarénien, il vivait nous, ce n'est pas normal. Il vivait nous. Il habitait la cimetière. Normalement, les gens n'aiment pas habiter les cimetières. Mais cet homme habitait la cimetière, parmi les sépulcres, et ainsi de suite. Il était à l'écart de la population. Normalement, nous sommes les êtres humains, nous en tant qu'êtres humains, nous sommes des êtres sociaux, nous aimons être ensemble, n'est-ce pas? Nous n'aimons pas être seuls, ou pas pour longtemps. Mais cet homme était seul, là, parmi les tombeaux. Il criait, il se blessait. Il y avait le démoniaque du Capharnaüm que Jésus a rencontré dans la synagogue. Il a crié pendant l'office du synagogue. On est en train de faire le culte et cet homme, il commence à crier à haute voix. Ce n'est pas normal. Ça suggère qu'il y a un problème. Et à Philippe, la fille qui était diabolisée et qui suivait Paul, c'est comme si elle souffrait d'un comportement compulsif. Il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et donc, elle se mit, c'est ce que Luc dit, elle se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, ces gens sont les serviteurs du Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Jour après jour après jour, elle suivait l'apôtre Paul, criant et criant. Et finalement, Paul s'est énervé et il a guéri. Ça va? Et donc, il y a ces symptômes psychologiques. Il y a des degrés de possession. Possession peut être grave ou moins grave. Mais toute possession n'est pas la même possession. Et donc, c'est plus grave quand il y a beaucoup de démons. Ou quand les démons sont pires. Ça, c'est intéressant parce que Jésus, dans une parabole, il parle des démons qui étaient pires que notre démon. Et donc, il y a des niveaux de méchanceté, même parmi les démons. Et un point final ici, et nous sommes presque à la fin, un point final, c'est qu'il n'y a pas de lien clair entre la possession et le péché. La Bible ne fait aucun lien entre les deux. Donc, elle n'attribue pas le péché à la possession. La réponse biblique au péché, c'est toujours la repentance. Ce n'est jamais l'expulsion d'un démon. Dans aucun cas dans le Nouveau Testament, est-ce que le narratif suggère que la personne était un grand pécheur? Plutôt, la personne souffrait, disons, de cette diabolisation de la part de Satan. Et non plus, on n'attribue pas la possession au péché. On n'est pas possédé parce qu'on est grand pécheur. Et donc, le péché n'est pas le fruit de possession, et la possession n'est pas le fruit du péché. Maintenant, il se peut bien que si quelqu'un se mélange dans les affaires magiques, dans la sorcellerie, qu'on risque d'être possédé. Ça, je crois, on ne peut pas nier. Mais la Bible n'établit pas un lien explicite entre le péché et la possession. Mais ce que le péché est, c'est que c'est en quelque sorte une manifestation encore de la nature de Satan. Et nous allons finir sur ce point. Parce que ce que le démon fait, il détruit. il détruit la personne. Il la détruit au niveau psychologique et émotionnel. Il détruit au niveau social, parce que ces gens sont chassés de la société. Il le détruit au niveau physique. Il provoque l'automutilation. Il cherche à faire se suicider la personne. Et c'est ça ce que Satan fait. C'est une forme visible extrême de la tyrannie de Satan. C'est ça ce qu'il vise. Et donc, nous devons reconnaître la méchanceté de Satan. Mais aussi, comme nous avons dit hier, nous reconnaissons la puissance du Seigneur Jésus. Parce que Jésus libère les possédés. Et Jésus peut libérer n'importe qui. Si le Gadarénien, finalement, après avoir erré nu dans la cimetière, se blessant avec des pierres, finalement, les habitants de la place l'ont trouvé assis et bien dans sa tête, dans son intelligence. Et Jésus a fait ça. Jésus peut guérir. Jésus peut sauver n'importe qui. Et donc, c'est un rappel final de la grandeur de notre Sauveur et comment il est supérieur à toutes les forces des ténèbres. Et il peut renverser et sauver ceux qui souffrent des manifestations extrêmes de la tyrannie de Satan. Bon, nous allons prier. Je crois que c'est juste une qu'on a complétée. Donc, nous allons prier maintenant avant que je remette la parole au MC. Notre Père Céleste, nous te remercions pour ce que nous avons lu. Nous te louons parce que tu es le Dieu de la terre tout entière. Et tu règnes sur toutes choses. Et tu accomplis ta volonté parfaite. Et nous te remercions pour ce rappel final. Que même avec les gens qui étaient possédés, qui souffraient terriblement, tu as libéré de telles personnes. Et même en grand nombre. Et tu as renversé les symptômes. Tu as chassé les démons. Tu as démoli la puissance de Satan. Et nous te remercions parce que nous adorons un tel Dieu et un tel Sauveur. Et nous voudrions que notre conception de toi convienne, que nous puissions reconnaître ta grandeur, ta toute suffisance et toute puissance, et ton immense bonté et amour pour tes siens. Donc merci pour ce moment. Nous te prions que tu continues avec nous dans le reste de cet après-midi. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen.